Un enfant peut-il avoir plus que deux parents ?
Effectivement, le Parlement britannique actuellement est en train de débattre de la possibilité de légaliser une triparenté d'ordre non pas juridique mais biologique, c'est-à-dire la possibilité de mélanger trois ADN différents via la donation mitochondriaque, mélanger trois ADN différents.
Quand un homme un transgenre, donc après une opération, il a demandé l'opération, il est devenu autre, et il va par ailleurs en plus demander une PMA parce que l'opération l'a rendu stérile. Voilà, vous assistez à ce genre de récit dans un colloque professionnel de sociologue. Effectivement, on voit une espèce d'inventivité assez extraordinaire. Mais plus banalement, quand un couple va demander aux États-Unis une mère porteuse qui va accueillir l'ovocyte d'une troisième personne et ensuite on va livrer l'enfant qui n'a plus aucun lien naturel, pour revenir à votre intérêt, qui n'a plus aucun lien naturel avec le couple de qui le recueille, on a là une très grande inventivité anthropologique, là, pour le coup.
Effectivement, il y a une pratique des usagers, pour reprendre votre terme, madame, qui est une pratique qui s'adapte tout à fait à la réalité du monde d'aujourd'hui. Et qui prend le droit français aussi énormément en otage de ce point de vue-là.
Je crois que dans la famille, rien ne relève de la nature.
Dans les pratiques effectives, vous voyez au fond des individus, ceux-mêmes qui sont les plus enclins à aller profiter, comme vous disiez tout à l'heure, des dernières innovations technologiques. Par exemple, des homosexuels utilisant...
Et qui vont aller en Belgique.
Et qui vont aller en Belgique, ou bon, prenons encore la GPA, aller chercher des mères porteuses. Eh bien, vous voyez des gens qui, par exemple, ils vont mettre dans leur maison des photos de la mère porteuse ou des enfants de la mère porteuse, en les désignant comme les frères et sœurs de l'enfant qui a été fabriqué de manière quand même relativement artificielle. Quand j'entends devant moi, dans un séminaire, un couple d'homosexuels me disant que pendant sa GPA, la grossesse de la mère porteuse, ils avaient mal au ventre tout le temps. C'est-à-dire qu'ils se sentaient eux-mêmes investis de cette grossesse. Ils faisaient une grossesse nerveuse.
Qui somatisait, c'est ça.
Qui somatisait.
Inscription dans le corps.
Voilà. Ils faisaient leur grossesse nerveuse. Bon, ben voilà un cas où la nature est récupérée de manière très, très impérative. Mais vous avez plein d'autres manifestations de ce type-là, la recherche de ressemblance. Ben, ça, c'est extraordinaire. Vous avez des parents, on leur livre un enfant, soit par PMA, soit GPA, et ils relèvent immédiatement des ressemblances. Et plus fort encore, des mères porteuses, après avoir livré l'enfant, se réjouissent du fait que l'enfant ressemble à ce point aux parents d'accueil. Bon, voilà, une espèce de reconstruction, de mise en scène de la nature, comme une espèce d'ardente nécessité par les protagonistes pour remettre de la nature, ce que j'ai appelé la nature quand même.
C'est
un vrai bricolage.
C'est ça.
Les gens choisissent des PMA, ils préfèrent toujours la méthode où il y a le plus de restes de nature, de gènes possibles. Voilà, c'est-à-dire que si on peut choisir entre l'IAD, qui est une insémination avec donneur, qui est techniquement pas compliquée, qui ne demande pas énormément aux femmes, on injecte du sperme, voilà, c'est rien du tout. Et l'ICSI, qui est une méthode extraordinairement coûteuse physiologiquement, et on préférera l'ICSI. Mais aussi, par exemple, des GPA en Israël, qui fait beaucoup de mères porteuses. Vous avez des mises en scène collectives dans les services d'hôpitaux, où la femme qui attend l'enfant, qui sera engendrée dans un service à côté, elle est, elle, allongée, elle est en position de mère gestatrice. On vient la visiter et on lui apporte des fleurs. Et donc l'enfant sera enlevé très vite de la mère porteuse et posé sur le ventre de la nouvelle, de l'accueillante. Bon. Voilà une mise en scène, c'est une mise en scène collective.
Jean-Christophe Duhamel, est-ce que précisément c'est pas cette solidité du couple qui est de facture anthropologique, comme vient de le rappeler Claude Lévi-Strauss, est-ce que c'est pas ça qui va céder, voire qui est en train de céder, notamment dans d'autres législations?
Peut-être. Moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous avez de nombreux précédents étrangers, effectivement, qui commencent à entériner légalement ces possibilités de triparenté, que les pressions qui viennent de la base, qui viennent du milieu profane, pour reprendre votre vocabulaire, sont très importantes, et que les possibilités de contourner la loi française sont telles que, de toute façon, le droit sera, je pense, à terme condamné à s'adapter.
Ce qu'on assiste, c'est très important pour nos auditeurs pour saisir ce qui se passe. C'est-à-dire ce double mouvement d'éloignement de la nature du côté du droit, timide mais qui progresse, et de réappropriation subjectif individuel de la nature, mais d'une nature mimée, d'une nature qui n'est plus une nature qui impose un destin ou des interdictions ou des impossibilités, au contraire, mais qui est une nature dans laquelle on recherche quand même une assise à l'identité.
Là, mais je dirais, on cherche à donner ce que vous disiez au début, en tant que juriste, à donner un peu de fixité, à mon sens, à des identités qui sont pensées, enfin, sont vécues aujourd'hui comme trop volatiles et des liens sociaux comme trop malléables, me semble-t-il. Alors, et donc, c'est pas symboliser que stabiliser et légitimer alors, les liens existants.
C'est intéressant que l'un et l'autre, vous employiez le terme de fixité, stabiliser, permanence, parce que je vous propose d'écouter maintenant le reportage de Sophie Bobert, qui est allée interviewer un pédopsychiatre, Richard Horwitz, qui préside l'association des CMPP en France, donc avec une très grosse expérience.
On trouve plus, ce qu'on ne trouvait jamais avant, de suicides et de suicides parfois réussis. Ça, c'est vraiment très préoccupant.
C'est censé être le bel âge, 7, 8, 9 ans.
Oui, c'est censé être le bel âge.
Mais est-ce que ça signifie qu'en dépit de l'évolution de la société, par exemple la généralisation des divorces, l'enfant est un être très conservateur? Ou alors est-ce que c'est pratique de le percevoir comme tel?
Conservateur, je dirais pas ça, parce que le mot a une connotation un peu marquée. Mais c'est vrai que l'enfant a besoin d'une permanence.
Oui, alors la nature, c'est qu'un instrument, hein, aujourd'hui. Ce qui me frappe dans ce que j'ai entendu, c'est que je pense que ma tendance est de la mettre radicalement à distance, cette déclaration, à la fois sur le plan historique et sur le plan sociologique, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne peux pas juger de besoin de permanence d'un enfant, évidemment. Par contre, je peux entendre le besoin qu'un pédopsychiatre a de permanence pour cet enfant.
Cette déclaration du pédopsychiatre est très intéressante, mais surtout assez, finalement, je vous livre un sentiment personnel, assez effrayante tout de même, parce que j'ai l'impression que le tableau dressé de l'évolution du psychisme et de la psychologie de l'enfant, aujourd'hui, est quand même assez noir. Il regrette de constater que des enfants en dépression à 8-9 ans passent dans son cabinet, c'est des choses qu'il voyait pas avant. Et finalement, c'est un professionnel qui s'interroge de plus en plus, j'ai l'impression, sur cette évolution. Mais de l'enfant baigné dans un milieu où tout le monde finalement s'intéresse à lui, où tout le monde revendique, je crois, une approche de l'enfance et une relation à l'enfance, sans forcément placer l'enfant au cœur du raisonnement.
Mais pourtant, c'est ce que fait le droit.
Ce que fait pourtant le droit, justement, je rebondis sur ça, ce vite. Ce que fait pourtant le droit lorsqu'il fait émerger ce critère qui aujourd'hui est absolument essentiel en jurisprudence, qui est l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Je pense que le droit aujourd'hui évolue autour d'un critère en filiation, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et la vraie question, de toute façon, qui est remise au juge, c'est toujours de déterminer cet intérêt supérieur. Mais d'un point de vue macroscopique, on peut quand même, je crois, légitimement s'interroger sur ce qu'est l'intérêt supérieur d'un enfant, confronté à des familles de plus en plus éclatées, à la monoparenté, confronté
ou la pluriparenté.
La pluriparentalité en France.
Oui.
qui est confronté finalement à un milieu qu'on pourrait qualifier de non stable et de non référent.
Est-ce que ce n'est pas le propre même du droit? Ce qu'on attend du droit, c'est que de stabiliser les rapports humains de manière générale, ce que disait Hannah Arendt, et de stabiliser les statuts.
De stabiliser, mais d'offrir aussi probablement un modèle de stabilité.
Jean-Christophe Duhamel, est-ce que le droit n'est pas entré aussi dans une phase d'accélération? Est-ce que vous êtes un observateur du droit de la famille, est-ce que vous ne constatez pas cette accélération du droit, notamment de la famille?
Ah mais bien entendu, nous vivons une période d'accélération de l'histoire juridique en droit de la famille, c'est manifeste. Il suffit pour ça de se tourner la semaine dernière vers l'avis de la Cour de cassation, vers l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu en juin dernier. Des différents projets de loi successifs sur la famille pour évidemment constater que nous ne sommes pas dans un univers juridique stable et nous ne sommes pas dans la structuration juridique d'un environnement stable pour l'enfant, ça c'est évident.
C'est-à-dire, on voit à quel point cette accélération, cette mobilité des statuts, cette exigence des désirs et du désir doit nécessairement reconstruire quelque chose, alors bricoler quelque chose par le droit ou par les...
Mais ça, je trouve que, enfin, encore une fois, moi je pense à mes étudiants et aux chercheurs futurs, c'est un chantier extraordinaire que ces compromis aujourd'hui, cette inventivité collective, professionnelle mais aussi profane, cette inventivité extraordinaire aujourd'hui pour, comme vous dites, avec une photo, avec rien, quoi, fabriquer de la permanence au moins apparente ou de la nature au moins apparente. Là, il y a, encore une fois, il y a de beaux chantiers.
15e anniversaire. Tu regardes tes deux hommes à la fois mère et père.
Alors, on a un exemple là de ce travail social, artistique, fait autour pour accompagner ces changements fondamentaux. Et vous avez entendu, le juriste ne peut pas manquer cette phrase, Jean-Christophe Duhamel, l'amour fera force de loi.
Oui, l'amour fera force de loi. Bon, c'est une nouvelle théorie des sources, hein, en droit. Mais effectivement, alors je vais être très très réaliste, mais s'il suffisait simplement de ça, tout serait facile et on serait dans un monde merveilleux. Encore une fois, je pense que nous sommes dans un monde d'intérêt. Il y a l'intérêt de ces très touchants et légitimes de ces personnes qui souhaitent avoir un enfant, mais il y a l'intérêt de l'enfant, surtout que le cas exposé en plus dans la chanson est tout à fait particulier. On évoque un enfant qui a été, alors je ne sais pas, conçu
ou adopté
à l'autre bout du monde. Bon, on ne peut pas déconnecter cette vision des choses, des circonstances qui conduisent à pouvoir adopter un enfant au bout du monde. Bon, je ne vais pas relancer ici le débat sur la GPA avec la Inde ou en Asie, mais ça ne peut pas être aussi simple que cela. Le droit, c'est une conciliation d'intérêts. Cette chanson, en disant « Amour fera force de loi », focalise sur l'intérêt du désir de l'enfant sans tenir compte des autres intérêts concurrents. Et tout aussi légitime, me semble-t-il.